Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du samedi sur Cocktail FM, consacré ce matin à un des symboles du patrimoine vosgien, l'épinette. Depuis le début du XVIIIe siècle, documents et témoignages attestent de la présence de cette épinette dans les Vosges, mais son origine reste encore inconnue. Elle a peut-être été importée par les Suédois durant la guerre de 30 ans, mais on peut aussi raisonnablement penser qu'elle est issue du psaltérion médiéval. C'est le mouvement Baba des années 70 qui a ressuscité l'épinette en faisant revivre la musique folklorique dans le nord de l'Europe. Une renaissance actée à Gérard May bien plus précocement par une formation musicale que l'on doit à Jean Grossier, les Ménestrels, vers 1947. Dans les années 60, le groupe fait reconstituer des épinettes par des menuisiers ébénistes, dont Marcel Gaspard, qui n'est autre que le grand-père d'un des épinettistes, luthier d'épinettes, les plus réputés d'Europe, Christophe Toussaint. Installé depuis 1978 à Menoru puis Don Martin les Remiremont, et c'est chez lui que tout commence. Un reportage de Jean-Christophe Givor et Émilie Michel.
Christophe Toussaint, où sommes-nous ici?
Ah, ici, on est dans ma salle d'expo, là où je mets les instruments que j'ai fabriqués et puis ceux que j'ai depuis un peu plus de 30 ans que c'est mon métier, c'est-à-dire qu'il y a près d'une centaine d'épinettes différentes ici.
On est dans les hauteurs de Don Martin, les Remiremont. Et pourtant, des gens, vous me disiez tout à l'heure, quand on montait vers la salle d'exposition, viennent du monde entier pour vous voir. Ils arrivent donc à vous trouver.
Oui, enfin, non seulement physiquement, mais aussi par Internet. Quoi. C'est sûr qu'on est partout au centre du monde. Hein. Oui. Mais bon, c'est les gens qui arrivent ici, bah, c'est qu'ils l'ont cherché, ils le méritent. Quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas trop de curieux et je suis assez tranquille comme ça.
Christophe Toussaint est donc luthier, mais un luthier d'épinettes, on pourrait dire aussi un épinettiste. Et vraiment, sa lutherie n'est pas facile à trouver, mais c'est comme ça qu'il vit Christophe, un peu loin du monde, c'est ce qui lui plaît dans la vie, se consacrer uniquement et entièrement à son art. Une histoire qui commence, pour Christophe Toussaint, en 1978. Christophe Toussaint, là on est à l'extérieur, il y a un panneau, alors qui est très discret, donc comme on le disait, c'est pas tout à fait facile de vous trouver. C'est écrit Christophe Toussaint, luthier. Un luthier fabrique des violons aussi. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive d'en fabriquer?
Non, j'ai jamais fait de violon. Ça m'arrive d'en réparer, de remettre des cordes, un chevalet, des choses comme ça. Oui, luthier, c'est réservé au violon, bien que... Au départ, ça devait être pour le luth, quoi. Mais on devrait pouvoir dire guitarier et... Moi, j'ose dire épinettier, quoi. Mais faut savoir que le mot archetier, par exemple, on pense que c'est un vieux mot, mais il a été accepté qu'il y a une trentaine d'années, je crois seulement. C'est un nouveau mot. La langue française est un peu morte, enfin un peu lente à évoluer.
Comment vous êtes-vous formé pour devenir luthier d'épinettes?
Ah oui, donc mon grand-père en fabriquait. Moi, j'ai appris chez lui. Hein. J'ai aussi appris l'ébénisterie, mais j'ai... Oui, chez lui, puis par moi-même.
Il n'y a pas d'école pour ça, ça ne s'enseigne pas?
Oh bah non, hein. Non. Non, parce qu'en violon, il y a Mirecourt, hein, qui forme une classe tous les ans. Et puis, il y a Le Mans pour les instruments avant et pour l'item au Mans. Oui, mon atelier, il y a deux parties. J'ai un endroit où, avec quelques machines, ça tourne pas souvent. C'est vite fait de scier et de raboter quelques bouts de bois. Et puis la partie principale, échauffée, puis un peu à l'écart, avec tous les outils manuels.
On monte trois marches. Celle-ci, elle a carrément un corps tout arrondi, avec des ouïes.
C'est une épinette simple sur le dessus, mais il y a une deuxième caisse de résonance dessous. Oui. Ils ont l'oreille absolue dans votre radio. Hein. Souvent, le problème des gens qui jouent l'épinette, c'est pour s'accorder, mais pour la guitare, c'est pareil. Mais avec les petits accordeurs qu'on a maintenant, c'est vraiment facile. Moi, je fais mes médiateurs dans les cartes
de crédit.
Les cartes de crédit. Mais bah, parfois, il y a la puce qui gêne ou une lettre qui se passe. Qui a été collecté à Metz, enfin non, dans un village à côté de Metz, par un médecin quand il faisait ses tournées entre, c'est quoi, 1901 et 1930. Il faisait ses tournées à cheval et il ramassait tout ce qu'il trouvait comme anecdote, comme tradition, comme conte, comme chanson. Je crois que c'est Novéan sur Moselle celui-là. Voilà, le morceau est présenté, je vais chanter. Écoutez, jeune fille à marier, prenez garde à ce que vous faites avant de vous fiancer. C'est un lien si serré qu'on ne saurait le délier. Tous les hommes sont si doux quand ils sont à marier, quand ils sont dans leur ménage. Ce sont diables déchaînés, c'est un lien si serré qu'on ne saurait le délier. Pauvre femme par la fenêtre, regrette son temps passé. Quand j'étais chez mon père, je ne fis à marier. C'est un lien si serré qu'on ne saurait le délier. Tout le jour et le soir, j'ai mon ménage à faire. Et mon mari à contenter, à quel chien de métier. C'est un lien si serré qu'on ne saurait le délier.
Magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y'a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. On les aime, on leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre. Avant que sur notre histoire, le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure. La vie serait d'un sombre sans vous autour. Vous tous autour, on ne dit jamais assez. Aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. dit jamais assez. Que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important ? La raison ou les sentiments ? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime.
Alors je profite que vous faites tomber vos partitions pour vous demander, il y a une histoire entre Jean Grossier, un compositeur, et des bûcherons. Ça vous rappelle quelque chose ?
C'est la réponse.
Dans les années 60, Jean Grossier, qui était l'un des fondateurs du groupe Les Ménestrels, avait rencontré un certain Jean de Roubaix, celui qui composerait la musique du film Les Grandes Gueules, qui avait été tourné au scellé entre Gérard May et Vanier, et il avait suggéré à de Roubaix l'utilisation de l'épinette pour caractériser les bûcherons des Vosges. De Roubaix sera attentif à la suggestion mais ne retiendra pas l'épinette au profit de la guitare et de l'harmonica. Il s'en explique dans un courrier qu'il a adressé à Jean Grossier en lui disant que l'épinette est un instrument peut-être trop féminin pour cet univers beaucoup plus brutal fait d'hommes.
Moi, je suis pas sûr que ce soit ça. C'est peut-être qu'à l'époque, ils ne jouaient pas en mineur sur les épinettes. Ils avaient, enfin, je sais pas. C'est mon idée à moi, mais il y a peut-être de ça aussi, quoi. Que on savait jouer qu'en majeur, on n'avait pas tout compris ce qui était faisable à l'épinette. On n'avait pas tout redécouvert. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait dit la vérité. Il aurait dû dire.
Il a fait dans la diplomatie.
Hein. Voilà, là, il aurait dû dire, bah, l'épinette, c'est un instrument trop nul, ou ils savent pas encore s'en servir. Non, mais ça a beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire, c'est venu de petit à petit qu'il y ait des gens qui découvrent, qu'il y ait des musiciens, c'est-à-dire des musiciens, des lecteurs qui s'y mettent aussi.
José Giovanni voulait tourner ce film comme un western et l'épinette aurait pu très bien convenir parce que c'est un instrument à cordes pincées. François de Roubaix l'a trouvé effectivement trop féminin.
Cette voix, c'est celle de Sabine Michel, la maman de notre journaliste Émilie Michel.
Il a utilisé l'harmonica et la guitare qui claque, qui fait western, puisque l'épinette, à l'époque, on ne la connaissait qu'en do majeur et on ne pouvait pas faire autrement.
Eh bien oui, c'est maman qui a commencé l'épinette alors qu'elle n'avait que 9 ans et qui en a joué pendant de très longues années en la compagnie de Jean Grossier, le fondateur des Ménestrels, dans un groupe également qu'elle avait fondé avec des amis, les musiciens de la Vallée des Lacs, et puis dans la formation réduite des Ménestrels à partir de 1987.
L'épinette, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est quelque chose de très important. Jean Grossier, que j'ai connu, j'étais toute petite, j'étais une enfant. Il a certes navigué sur un mouvement d'éducation populaire, il a réussi à trouver ses troupes, à faire revivre cet instrument grâce à des Louis Georgel, Monsieur Gaspard et des Christophe Toussaint. Et quelqu'un de très érudit, un dictionnaire ambulant, une encyclopédie. Bon, je pense que il faut remettre à César ce qui appartient à César, et s'il n'avait pas été là à cette époque-là, je pense que c'est un instrument qui aurait été totalement oublié, qui serait jamais allé un jour de printemps au Xet, sous Gérard May calciné, avec les cerisiers en fleurs, voire Madame Marshall, qui s'essuie les mains au tablier parce qu'elle était allée traire ou allée aux bêches, comme on dit ici.
Traduction du patois géromois, aller aux bêches, aller au bassin, chercher de l'eau.
Sortir son épinette du dessus du grenier et dire, eh ben voilà, ce qu'est la bûche à musique. Et ça, je te la montre et je te joue un air.
J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de l'historique, de la genèse en fait, de la redécouverte de l'épinette par Jean Grossier, qui a ensuite abouti à la création des Ménestrels.
Ouais, je crois que ce qu'il admettait pas à l'époque, c'est que pourquoi la vielle en Auvergne existait, pourquoi en Bretagne les danses et les chants existaient, et pourquoi nous n'avions pas ça ici. Donc c'est quelqu'un qui avait envie d'exister et de faire exister sa région et son patrimoine jusqu'au jour où la discussion qu'il a avec sa mère, il était fâché d'ailleurs, oui je comprends pas, etc., on n'a rien ici, etc., et qu'il y a plusieurs personnages qui entrent en scène, un peu comme dans une pièce de théâtre. Quelqu'un entre et dit « Mais je connais... Mais si, il y a quelque chose qui existe ici, l'épinette !» Deuxième personnage qui entre dans la boutique des parents de Jean Grossier. « Je connais quelqu'un, Ouxette, qui en joue encore. C'est Madame Marchal, tu devrais aller voir. » Donc il y est allé, un matin, un jour de mai... Gérard Mécalciné, les cerisiers...
Excuse-moi maman, je te coupe la parole.
C'est dommage Émilie, c'était intéressant.
On en était à Jean Grossier qui venait de découvrir l'épinette. La suite s'enchaîne assez vite, il embarque sa sœur Annette dans une quête de patrimoine jérômois. Ils vont de ferme en ferme à la recherche des différents chants, danses, costumes et peut-être d'autres instruments.
Et alors Émilie, qu'ont-ils trouvé ?
Cette fois-là, je laisse maman raconter.
Certainement que ça a duré plus de 10 ans et ce qui est incroyable c'est que... sont des gens qui ont fait des enquêtes, qui ont écrit les choses sans même en avoir conscience, je pense. Donc effectivement, il y a eu beaucoup sa sœur, il y a eu l'abbé Beau qui a écrit énormément de musique, des paroles, etc. C'est Gérard Mé, Perle des Vosges, c'est l'abbé Beau. Avec Guy Voirin, avec Suzette Rater, etc. Il y a eu des écrits, il y a eu des livres édités et le patrimoine est couché sur papier. Et la mémoire, grâce à ça, ne va pas s'éteindre.
Bien, on sait donc que le patrimoine est sauvé grâce à l'Arche de Grossier et ses amis. Mais qu'en est-il de notre épinette aujourd'hui ?
Eh bien, l'épinette a été utilisée dans des musiques actuelles, mais ça n'est pas aujourd'hui, c'était plutôt il y a environ 25 ans, quand ma maman a rencontré Christophe Toussaint et qu'eux et une bande d'amis ont créé un groupe de musique, les musiciens de la Vallée des Lacs.
On a été précurseurs... de la musique folk moderne, puisqu'on utilisait batterie, guitare basse, etc. L'épinette a toute sa place dans la musique actuelle. Il faut savoir également qu'Alan Stivell a utilisé l'épinette bretonne. C'est un instrument dont on ne connaît pas l'origine, l'épinette. C'est un instrument qui est arrivé dans les Vosges. On ne sait pas réellement comment. Est-ce que les Suédois nous l'ont laissé ? Il faut dire aussi que l'épinette des Vosges est une grande épinette qui fait à peu près 1 mètre de long. À côté de ça, il n'y a pas que Gérard Mé, il y a le Val d'Ajol aussi qui avait sa petite épinette. C'est des instruments qui n'ont jamais vraiment été perdus. Au Val d'Ajol, elle a toujours existé.
Ça a vraiment été sympa de parler avec toi.
Comme quoi, le futur de l'épinette, c'est peut-être de rapprocher les générations.
Y a rien de plus charmant que la bergère au champ. Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère. Qu'il se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus
fort qu'une armée entière. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté du puits où il n'y avait pas de place pour se garder. Et voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Cueillerons la violette, le romarin nouveau, le romarin nouveau.
Métap, tu es venu avec nous en reportage pour découvrir un petit peu le monde de la radio et accessoirement le monde de l'épinette. Est-ce que tu connaissais cet instrument ?
Non, je ne connaissais pas, mais ça me plaît beaucoup. Et c'est joli à entendre. Bah, j'aimerais bien en jouer. Ce serait pas mal, oui, mais je suis pas très forte en musique, donc je préfère pas trop, ça va tout gâcher.
Tant pis, nous n'aurons pas droit à des variations anatoliennes de Métap sur l'épinette vosgienne. Retour dans l'atelier de Christophe Toussaint.
Les épinettes, ça reste des instruments traditionnels et bon marché. Enfin bon, on n'a pas besoin d'érables blondés, on n'a pas besoin d'ébène, on n'a pas pour avoir des bois assez simples, voire avec un aspect un peu sauvage. Faut pas des gros nœuds coulants, comme on dit. Hein,
qui... Pas de sapin quand même.
Ah bah pas de la grosse fiotte comme ça, non. Bien sûr, non, il faut du bois assez fin. Ça m'arrive pour les touches, c'est-à-dire la partie où les cordes vont appuyer, d'utiliser un bois plus dur. Mais comme sur, voilà. Il faut que je fasse une épinette comme ça. C'est une épinette norvégienne, on appelle ça, pour un client de Venise. C'est la Norvège à Venise qui vient des Vosges. Et enfin, là, j'ai du temps, mais je ne sais pas encore si je vais en faire plusieurs. J'ai une tête d'avance hein, qui est en merisier. Tout ce bois orangé, là, c'est du merisier. Et les frettes, là, les barrettes, ne sont pas en métal, mais elles sont en bois. Et là, j'ai utilisé un bois africain qu'on appelle un bois de fer. Mais sinon, si on n'utilise pas un bois dur comme ça, on utilise un bois plus tendre et on met une petite baguette d'os sur le dessus.
D'accord. Oui, alors de toute façon, il faut un petit peu de dureté simplement pour que la corde ne finisse pas par creuser oui, la barrette.
Au niveau du chevalet aussi, il faut des choses dures. Alors, en bois locaux, j'utilise le houx, qui est un bois bien dur. Hein. Ça ne fait pas des gros arbres, mais pour faire des chevalets qui sont gros comme... Disons comme un crayon de charpentier, il n'y a pas besoin de gros morceaux. Le houx, le buis serait pas mal, mais il n'y en a pas par ici.
Ce qui impressionne, là, quand on regarde celle-ci qui est en assemblage, c'est sa tête. Finalement, il y a une véritable œuvre d'art. Est-ce que c'est sur cette tête, justement, que l'artisan que vous êtes exprime son côté artiste ?
Ah oui, donc il y a différents endroits pour s'exprimer. C'est la tête et puis dans les ouïes, c'est-à-dire dans les ouvertures. Au collège de Remiremont, là, on est en train, avec une classe de SECPA, de 4e, de fabriquer des épinettes. Pour l'instant, on en est au dégrossissage, c'est très mécanique, c'est pas intéressant. Mais par contre, là où ils vont s'amuser, c'est à découper des ouïes, hein, à faire des initiales, des cœurs, des trèfles. En Flandre, en bord de mer ou sur les Ou sur les bords de Meuse, on faisait des encres de marine. Enfin, il y a toutes sortes de motifs qui sont faisables. Et puis au niveau de la tête.
Hein. Alors là, c'est un travail de ciseaux à bois, par exemple, sur cette épinette de Venise pour la Norvège, ou l'inverse.
Non, c'est une épinette de Norvège pour Venise. Oui.
Ah voilà.
Oui. Faut que je lui écrive qu'il s'impatiente pas trop, ce client. Oui.
Justement, votre clientèle, alors principalement, c'est quoi? Oui, c'est Internet, le bouche-à-oreille, comment ça marche?
Oui, bah, le bouche-à-oreille, c'est sûr, ça fait déjà 30 ans que c'est mon boulot, donc...
Combien ça coûte, une épinette?
Ça dépend. Ça dépend du prix, surtout. Non, je fais des épinettes d'études à partir de 180 euros. Et puis, ça va jusqu'à 1200. Là, c'est le temps. Hein. C'est-à-dire, quand je fais une série d'instruments, je vais avoir un prix de base. Et puis après, je vais dire pour tel motif, j'ai passé en moyenne une heure ou deux. Donc, je vais tâcher de compter quand même au moins le SMIC, quoi. Mais plus l'instrument est élaboré et travaillé, moins il faut demander. Et puis se dire que bah oui, j'ai eu du plaisir à le faire, donc il faut que je décompte le plaisir que j'ai eu à le faire, quoi. C'est un peu ça. Mais bon, c'est faire un tout, quoi.
Vous produisez en moyenne combien d'épinettes à l'année?
J'en ai fait jusque 150 par an, mais actuellement, je fais tellement d'autres bricoles autour que j'en fais plus qu'une cinquantaine, et puis... c'est bien. Parce que je fais de la musique aussi, je joue à droite, à gauche, enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Mettons, c'est quand même pas loin de 50 par an là en ce moment. Oui. Et où elles partent? Alors le plus loin, l'an dernier, c'était Athènes, et on s'écrivait en anglais, c'était quelque chose, hein, parce que j'avais pas voulu me mettre au grec. Hein. Et puis là, j'en ai envoyé juste une en Autriche, et c'était une qui était en Irlande, mais le client, ça ne lui plaisait pas. Alors, je lui avais repris son épinette d'Irlande, et là, elle est en Autriche, dans le Tyrol.
Reste tout de même, dans ce reportage sur l'épinette des Vosges, à comprendre un peu comment on fabrique une épinette.
Je débite tous mes morceaux de bois. Hein. C'est sûr, pour la tête ou le cordier, c'est-à-dire la base de l'instrument, il faut des madriers, hein. Faut du bois assez épais, pas des grands morceaux, hein. 20-30 cm de long, ça suffit, mais il faut comme de la poutre, quoi. Par contre, pour les tables, c'est-à-dire le dessus et le fond, il faut quelque chose de plus mince. Pour les côtés, ce qu'on appelle les éclisses aussi. Donc, ce que je fais en principe, c'est que on colle la tête avec les éclisses, donc avec les côtés. On fait un cadre, un sommier, on pourrait appeler ça. Tête, éclisse et puis cordier. De toute façon, si c'est pas visible à la radio, il faut que les gens viennent. Ça m'arrive de faire des visites. Ensuite, je vais coller la table et le fond. La table qui aura déjà ses frettes et ses ouïes, ses trous. Et puis après, les pieds, les sciers, c'est-à-dire là, bon, sont posées les cordes près de la tête. Les clés, les cordes et à la fin le chevalet, puis l'étiquette du prix. Des fois l'étiquette du prix avant, ça dépend. Des fois j'arrive facilement à mettre un prix et parfois je patine pendant des semaines.
Encore une chose, on parlait du fond de l'instrument. Est-ce que l'épinette a une âme?
Ah, l'âme, c'est le petit bout de bois qui est dans les instruments à cordes frottées. Oui. Parce qu'il faut qu'entre le chevalet et puis le fond... que tout vibre ensemble. Le violon, j'y connais pas grand-chose, mais paraît-il qu'un violon sans fond sonne à peine plus mal qu'un violon sans âme. Et puis l'âme dans un violon, c'est quasiment la seule pièce qu'on peut encore changer après, qu'on peut déplacer pour changer le son. Hein. C'est pour ça que l'âme a une importance dans ces instruments à cordes frottées. Donc, sur une épinette, le chevalet, il est quasiment au bout de l'instrument, donc le son se transmet par le bout de l'instrument. Et puis comme c'est à cordes pincées, une attaque de son, elle a le temps d'aller se promener puis de se répandre partout.
L'épinette, finalement, c'est pas qu'elle n'ait pas d'âme, c'est que son âme est littéralement scellée à son corps.
Ah bah oui, voilà, c'est ça qu'il fallait dire.
Une âme chevillée au corps de l'épinette, comme la tradition est ancrée dans l'esprit et la culture vosgienne. Car la renaissance de l'épinette correspond aussi à la mort du complexe vosgien, le retour des patoisans de la culture paysanne, si bien relayé par des Vanoni à la scène. Il a d'ailleurs fait partie des Ménestrels ou des Pelots en littérature. Un grand merci à Christophe Toussaint pour sa gentillesse, sa poésie, son art de vivre, à sa Sabine Jegou-Michel pour nous avoir livré ses souvenirs, à notre jeune stagiaire Meta pour la fraîcheur de son regard et son intérêt pour la culture, et bien sûr à Jean Grossier pour avoir su faire revivre l'âme du patrimoine vosgien. Changement radical de décor samedi prochain, puisqu'Émilie Michel et Jean-Christophe Givor nous proposeront une immersion dans le monde fabuleux et parfois inquiétant du fantastique à l'occasion de la 18e édition du Festival International de Gérardmer du film fantastique. À samedi prochain et d'ici là, excellent week-end. À très bientôt.